Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Graphite 94.9 et Graphite.net. Aujourd'hui, c'est la seconde session de présentation des projets réalisés par les étudiantes et étudiants de l'UTC dans le cadre du cours Low-techisation et numérique. Alors, je suis Stéphane Croza et je suis en studio avec Lou Aubert-Debru, Hugo Rottier, Solène Dombry et Marion Delcourt. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
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 Alors, l'objectif du cours Low-techisation et numérique, c'est de mener un travail de conception technique orienté par des valeurs socio-écologiques. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ben, ça veut dire concevoir ou reconcevoir un outil ou un service en se préoccupant avant tout des impacts socio-écologiques et en proposant diverses alternatives, en quelque sorte, qui permettent de les minimiser et de faire avenir d'autres possibles techniques. La semaine dernière, on a ainsi vu un exemple de microscope low-tech avec David Rousseau, projet porté par David Rousseau, l'Université d'Angers. On a vu un projet de notebook, d'ordinateur qui dure 50 ans, porté par Raphaël et Sébastien de l'Université de Rouen. Et d'ailleurs, en ce moment même, les étudiants qui ont mené ce projet, Naïn et Barnabé, sont en train de faire une conférence autour de ce sujet à Paris. Et puis, on a vu également le projet Small is Beautiful, porté par Karine Michaud de Montaigne. Cette semaine, eh bien, on va voir quatre nouveaux sujets. Donc, on va parler surtout d'agriculture aujourd'hui, d'informatique, de numérique pour l'agriculture. J'y reviens tout de suite. Et puis ensuite, on verra les projets Low Tech Push, portés par Boris du CEA, et Stop Méga Projet, porté par Noam Elias de Canal Alternatif. Je vais revenir donc un petit peu sur les contenus d'aujourd'hui. Hein. Donc, le premier projet qui va démarrer dans vraiment quelques instants, ça va être le projet qui va nous être présenté. Par Louis Hugo, qui est donc le projet AgriBots, porté par Pierre Larocca de l'Université de Bordeaux. Et juste après, on aura le projet e-agricole. Le processus général qui est suivi dans le cadre de ces projets, et voilà, que vous allez voir illustré à travers ces présentations aujourd'hui et tout à l'heure jusqu'à 16h30-17h, et bien c'est d'abord un processus de veille, puis d'idéation, puis de maquettage, on écrit des petites histoires, d'analyse fonctionnelle, d'évaluation réflexive et donc enfin de publication. Ce passage à la radio étant en quelque sorte la dernière étape. Mais je crois que j'ai assez parlé, donc si c'est OK pour vous, Lou et Hugo, pour attaquer la présentation donc, du projet AgriBot, je crois que je passe la parole à Lou encore en premier. C'est parti alors.
C'est ça, merci Stéphane. Alors déjà bonjour et bienvenue dans cette émission qui est consacrée à la présentation d'AgriBot. Alors il s'agit d'un projet étudiant de robot agricole low-techisé, imaginé dans le cadre de l'UV IS3. Il est porté par nous, Hugo et Lou, mais aussi par notre suiveur, Pierre Larocca, qui travaille au LABRI, donc le Laboratoire Bordelais de Recherche Informatique, et par notre enseignant d'IS3, Stéphane. Comme je l'ai dit précédemment, AgriBot, c'est un robot. Ce projet a pour point de base le fait que la robotique commence à arriver doucement dans l'agriculture, avec des robots qui ont pour objectif de réduire la pénibilité du travail, la dépendance aux pesticides, mais aussi d'augmenter la productivité. Toutefois, il est assez simple d'imaginer les différents effets indirects, c'est-à-dire des impacts potentiels générés qui sont liés au développement de nouvelles technologies. Les robots peuvent engendrer de nouvelles formes de dépendance et faire émerger des risques qui contredisent les promesses socio-environnementales associées à ces technologies. On peut notamment relever une dépendance accrue aux ressources minérales pour leur fabrication, impliquant la poursuite de logiques extractivistes, une perte d'autonomie et de capacité de réparation, renforçant la dépendance vis-à-vis des entreprises proposant des dispositifs fermés et opaques. On donnera un exemple de cette affaire avec John Deere juste après. Ainsi qu'une transformation du métier d'agriculteur marquée par une forme de prolétarisation qu'on peut définir comme ce qui consiste à priver un sujet, producteur, consommateur ou concepteur, de ses savoir-faire, savoir-vivre, savoir-concevoir et théoriser. Et une distanciation croissante par rapport à la Terre. Notre but est donc d'imaginer une version low-techisée de ces robots-là. Nous avons axé notre projet sur les principes de la low-techisation, donc pas uniquement l'aspect technique. Nous avons tenu à mettre un point d'honneur sur l'organisation sociale autour de cette technologie, ainsi que sur la critique autour du sujet de la robotique.
Et pour illustrer concrètement les dérives possibles d'une robotique trop fermée ou trop propriétaire, on va vous parler d'un cas révélateur, celui des tracteurs John Deere, dévoilé sur le site internet de Vice, un groupe de médias américains en 2017. Depuis quelques années, des agriculteurs américains se sont mis à pirater leurs propres tracteurs. Pourquoi ? Parce que ces machines, pourtant achetées au prix fort, ne sont en réalité pas totalement à eux. John Deere a verrouillé l'accès à tout un tas de fonctions de diagnostic et de réparation. Résultat, quand une panne survient, impossible pour l'agriculteur de la réparer lui-même. Il est obligé de passer par un technicien agréé et de payer souvent cher. Alors certains ont commencé à télécharger des firmware ukrainiens, des logiciels non officiels, pour reprendre la main sur leur tracteur. Ces fichiers permettent de recalibrer les injecteurs, le turbo et même les airs moteurs. Bref, de retrouver une forme d'autonomie sur leur propre outil de travail. Mais au fond, ce que ça montre, c'est qu'on est face à une technologie qui va complètement à l'encontre de la convivialité technique définie par Ivan Illich, un philosophe autrichien, comme un outil où chacun peut l'utiliser sans difficulté, aussi souvent et aussi rarement qu'il le désire, à des fins qu'il détermine lui-même. Tout est opaque, et ça c'est dangereux. Non seulement ça renforce une autre dépendance aux grandes marques, mais ça ouvre aussi la porte à de l'obsolescence logicielle, des pannes ou des mises à jour qui forcent à changer de machine, même si elle fonctionne encore très bien. Chez Agribot, on essaie justement de proposer autre chose, et surtout un robot qui reste au service de l'agriculteur et pas l'inverse. Par exemple, Agribot est équipé avec des logiciels libres, c'est-à-dire des logiciels qui respectent la liberté des utilisateurs, ce qui veut dire que ceux-ci ont la liberté d'exécuter, copier, distribuer et modifier ces logiciels. Et maintenant, pour bien comprendre ce que promet la robotique agricole de nos jours, on vous propose un témoignage extrait de France 3 Hauts-de-France qui présente comment ces technologies aident déjà certains agriculteurs au quotidien en Picardie.
Le robot porte-outil va aller chercher différents outils. Et donc là, on a une repiqueuse équipée qui fait le travail de repiquage. Et on va avoir plein d'autres outils tels que le désherbage. Donc on a une bineuse qui permet de désherber. On a des rouleaux plombeurs qui nous permettent de plomber.
Là, si j'avais dû planter ce rang à la main, ça m'aurait pris 1h30, 2h à quatre pattes. Vous voyez, là, on l'a fait en 5 minutes et je suis resté debout tout du long, quoi. Toutes les tâches les plus pénibles, on va dire, vont être réalisées par le robot qui va nous accompagner, en fait. On n'est pas en train de dire qu'il remplace vraiment une personne, mais il va nous accompagner dans la réalisation de ces tâches.
Comme nous l'avons dit précédemment, nous avons essayé d'innover un peu pour la réparabilité technique du robot, pour que justement les agriculteurs puissent le réparer le plus possible seuls. Notre but n'est pas de faire payer à prix d'or des réparations anodines. Parmi les idées que nous avons eues, celle qui est probablement notre favorite est celle du robot dit Lego. Le robot est composé de plein de petits modules facilement démontables, c'est-à-dire que les roues sont démontables facilement pour pouvoir être changées selon les terrains et la météo. Les bineuses sont démontables pour pouvoir être nettoyées ou remplacées facilement en cas de casse, et les batteries sont interchangeables. De plus, toutes les fonctionnalités de diagnostic et de réparation sont ouvertes aux agriculteurs. Pour vous expliquer les possibilités offertes par la modularité, laissez-moi vous raconter une petite histoire pour se projeter. Léon est un agriculteur de Bourgogne-Franche-Comté, la région de France où il pleut le plus. Contrairement à ce que l'on peut penser, la culture principale de cette région n'est pas le raisin, mais les cultures céréalières et oléagineuses. Hier, Léon a utilisé son robot toute la journée pour s'occuper de son champ de blé. Il faisait beau, le sol était sec. Il a donc choisi des roues en caoutchouc classique, d'une dizaine de centimètres d'épaisseur, qui ont environ le diamètre d'une roue de voiture. Elles sont parfaitement adaptées à la terre sèche, elles n'abîment pas le champ et permettent d'aller plus vite sans s'enfoncer dans le sol. Malheureusement, aujourd'hui, il pleut énormément, le sol est très détrempé. Léon veut quand même utiliser son robot, donc il récupère des chenilles en métal adaptées à celui-ci. Léon débranche les roues et les enlève de la structure dans un espace dédié pour ranger les différents composants du robot. Il les remplace par les deux chenilles qu'il branche à la place et clipse sur la structure. Les clips fonctionnent sur le même principe qu'une boucle clips en plastique, mais en format un peu plus épais. Une partie malléable rentre dans une partie plus robuste et vient se clipser dans un espace vide à l'intérieur de la partie renforcée. Les roues non utilisées peuvent être rangées dans l'espace de rangement. Les chenilles permettent aussi d'avancer dans une terre très détrempée et empêchent le robot de glisser, permettant ainsi à Léon de désherber son champ malgré ses conditions. Cette fonction permet à l'agriculteur d'utiliser son robot sur un maximum de terrain et par tous les temps. Elle permet de ne fabriquer qu'un seul modèle de robot qui pourrait être compatible avec un grand nombre de cultures. À cette histoire, nous avons pu associer trois valeurs de l'autéquisation. Notamment la soutenabilité. En utilisant des modules spécialisés pour différents sols, ces parties seront moins utilisées et engendrera une consommation de ressources réduite. Mais également la convivialité, la simplicité, avec l'aspect modulaire du robot qui permet la simplicité de la réparation. Car cela découpe le robot en plusieurs sous-systèmes moins complexes pour l'utilisateur. Et enfin, la valeur responsabilité et lien avec les différentes pièces du robot qui peuvent être utilisées et prêtées par d'autres agriculteurs. Et avec ça, nous avons pu repérer deux leviers actionnés par cette technologie. Notamment l'imagination et le soin, puisque le robot est adapté pour prendre soin de son environnement. Il participe à éviter la compaction des sols et à éviter la dispersion de produits phytosanitaires dans les nappes phréatiques et les sols. Et ensuite, l'optimisation et la littératie. Avoir différentes pièces simples permettent aux agriculteurs de s'approprier celles-ci et de savoir les réparer. Et enfin, nous avons pu souligner une tension importante avec le modèle économique actuel, notamment avec le progrès technique et l'invention. Notre système est en opposition au développement de brevets, que ce soit dans le cadre de fabrication des pièces, mais aussi pour son logiciel, qui est complètement libre. Notre robot a pour but de continuer à prouver que le logiciel propriétaire n'est pas une nécessité pour devenir influent ou important. Par exemple, on peut parler de Linux, qui fait fonctionner la majorité des serveurs de la planète, ou de Mozilla et Firefox, que vous connaissez très certainement. Cependant, les robots agricoles ont également de nombreuses limites que nous allons mettre en avant à travers l'extrait d'une intervention de Eli Paracini, paysan boulanger, et Mathieu Amietch, éditeur et auteur sur la chaîne YouTube de l'Atelier Paysan, une société coopérative française.
Il faut la dénoncer. Ne serait-ce que parce que la robotique, telle qu'elle se déploie, telle qu'elle commence à se déployer, telle qu'elle est promise, va aggraver les tendances dont j'ai déjà parlé. C'est-à-dire qu'elle va vraiment radicaliser le fait qu'un certain nombre de gens n'auront plus aucun rapport direct avec les choses sur leur exploitation, avec les éléments naturels, avec les êtres vivants, ou même avec le matériel de travail, avec les machines, qui seront guidées par logiciels semi-automatisés ou complètement automatisés. Là encore, on est dans la problématique de la perte extrêmement rapide et radicale de savoir-faire. De savoir-faire qui sont loin de l'autonomie, mais qui, voilà, on est dans une logique de désautonomisation. Et donc.
Maintenant, nous allons aborder la phase de test mise en place avant une potentielle future commercialisation de notre projet. Pour ce faire, nous allons raconter une autre histoire. Thierry, un agriculteur, a accepté de faire partie de la phase de test des robots. On lui a fourni un prototype pour ses champs et de l'aide du personnel de l'entreprise ainsi que des scientifiques pour l'aider à installer celui-ci. Pendant plusieurs mois, Thierry devra noter des informations sur le robot, comme sa consommation, la surface parcourue et le pourcentage de récolte détruite par le robot, pour les envoyer aux scientifiques qui viennent régulièrement faire des prélèvements sur les sols pour vérifier que le robot ne dégrade pas leur qualité en retournant la terre trop souvent. Thierry a bien sûr des compensations financières pour les pertes des produits agricoles, ce qui lui permet de ne pas trop s'inquiéter de ses revenus. Une vingtaine d'agriculteurs dans toute la France participent également au programme de tests. Ceux-ci ont des cultures et des terrains différents pour rendre les tests plus complets.
C'est pour cela que notre projet est aussi passé par plusieurs outils d'évaluation. La phase d'évaluation, en IS3, c'est une phase durant laquelle on évalue notre projet selon un grand nombre d'outils, comme celui des 7 péchés du greenwashing, qui sert à éliminer les propos qui relèvent du greenwashing dans notre travail, et l'outil effet rebond, qui sert à évaluer les éventuels effets imprévus, positifs ou négatifs du produit, pour avoir la vision la plus complète de la pertinence du projet. Donc laissez-moi vous en présenter un peu plus, l'outil diamant. Tout d'abord, en quoi consiste-t-il ? Il s'agit d'un outil qui sert à analyser 5 critères. Les critères qui risquent de mener à l'effondrement d'une société, selon l'anthropologue Jared Diamond. L'impact, la résilience, la compétition, la réaction et la coopération. En classant les différents aspects du produit en points positifs et en points négatifs. La représentation finale est un schéma qui ressemble à un diamant. Pour répondre à ces 5 critères, nous avons pu nous aider de 5 questions les accompagnant. Je vais vous donner un peu de détails sur ce que nous en avons retenu. Donc sur la question en quoi ma proposition modifie l'impact de la société qu'il adopte sur l'environnement, nous en avons conclu que globalement les robots ont un impact environnemental positif par rapport aux usages de l'agriculture industrielle. Ils contribuent à la réduction de la pollution des sols, évitent l'usage de produits chimiques et diminuent la compaction des terres grâce à son poids plus léger qu'un engin traditionnel. De plus, sa conception privilégie des matériaux recyclables et moins polluants. Cependant, si la transition est mal gérée, il existe un risque d'empilement des équipements. C'est-à-dire que les anciens engins seraient conservés en plus du robot, ce qui pourrait finalement aggraver l'impact sur l'environnement. Ensuite, sur la question en quoi ma proposition modifie la protection de la société qu'il adopte aux changements environnementaux subis, on a pu noter que du point de vue de la résilience, ce robot favorise l'autonomie locale dans la production alimentaire et la diversification des cultures. Cela renforce la capacité des territoires à faire face aux changements environnementaux. En revanche, si l'on s'en remet uniquement aux robots, certains savoir-faire agricoles traditionnels risquent de disparaître avec le temps. Ensuite, sur la question « En quoi ma proposition modifie la capacité de la société qu'il adopte à réagir aux problèmes rencontrés ?», nous en avons conclu qu'en termes de réaction face aux crises, le robot apporte une grande flexibilité. Il peut être adapté à différents types de conditions grâce à ses modules interchangeables. Cela peut s'avérer précieux face aux défis climatiques futurs. En revanche, sa vitesse d'exécution est inférieure à celle de machines classiques, un tracteur par exemple, ce qui pourrait poser problème en cas d'urgence agricole. Sur le plan de la coopération, pour la question « En quoi ma proposition modifie les relations d'une société qu'il adopte avec des sociétés amies ?», nous avons pu remarquer que le robot est pensé pour être mutualisé entre agriculteurs et coopératives et que cela favorise le partage, la solidarité et les échanges de connaissances, particulièrement dans les zones rurales parfois isolées. Enfin, vis-à-vis de la compétition entre sociétés, le robot améliore la compétitivité des structures engagées dans une agriculture biologique, souvent plus exigeante. On pourrait même imaginer que la France devienne leader du bio dans le monde, tellement l'accessibilité à cette filière serait facilitée. Mais ce progrès pourrait aussi engendrer une course au nombre de robots, contraire à l'esprit de sobriété recherché. Pire encore, il y a un risque de compétition déloyale. Les plus grandes structures, mieux équipées, pourraient écraser les plus petites, incapables de s'aligner sur ces nouvelles technologies. Cela aggraverait également le phénomène de concentration. C'est un phénomène qui fait que depuis plusieurs années, le nombre d'exploitations agricoles recule, mais que la superficie de celles-ci augmente. Alors voilà, c'est tout pour notre présentation d'AgriBot, mais restez avec nous car nous allons répondre à quelques questions d'auditeurs.
Merci beaucoup, merci à vous deux, Lou et Hugo, de nous avoir présenté ce projet. Alors, effectivement, on a vos collègues qui ont posé quelques questions. Je peux commencer peut-être par celle de Laura, si vous le voulez bien. Laura demande... Alors, vous nous avez parlé un peu pour le principe de réparabilité du robot, de la modularité. Vous avez mis en avant d'autres éléments. Est-ce que vous pouvez refaire peut-être un petit point globalement là-dessus ? Qu'est-ce qui fait que ça va être plus facilement réparable finalement que... qu'est-ce qui fait que ça va être facilement réparable ? Vous avez parlé peut-être des brevets ou de l'aspect logiciel libre. On pourrait peut-être imaginer encore d'autres choses. Je ne sais pas, des réseaux de formation, des cours à l'UTC, j'en sais rien. Je ne sais pas si vous avez des éléments complémentaires.
Déjà, on peut parler je ne sais pas comment on pourrait mettre ça en place, mais une sorte de formulaire où on pourrait apprendre à comprendre les pièces, les différentes pièces, à les emboîter. En fait, c'est assez facile à construire un robot AgriBot car les pièces sont assez standardisées. On a vraiment le but, c'est vraiment d'être accessible pour tous les agriculteurs pour que ça soit facilement réparable. Donc ça serait une des pistes, et en plus il y a tout ce qui est les pièces sont assez grandes pour justement éviter les petites pièces qui vont être très spécifiques, demander de l'usinage. Donc déjà c'est une des parties
plus facile à produire aussi également. Oui, c'est voilà. Ça que je veux dire. Oui.
Il faut aussi se dire que le robot, il est fourni avec un forum pour les utilisateurs qui est collaboratif entre l'entreprise et les agriculteurs, et que donc on peut y retrouver des tutos, de la documentation, puis même de l'aide de gens qui sont tout simplement beaucoup plus à l'aise avec de la technologie. Ça arrive, les différents âges entre agriculteurs, ça existe. Donc les jeunes seront probablement plus à l'aise et plus à même d'aider les aînés.
Ok, et puis comme je disais, on peut imaginer dans des territoires un peu agricoles, et bien qu'il y ait des centres, des endroits où il y a un peu comme les Ripper Cafés, mais peut-être un peu plus en campagne, où les gens puissent s'entraider. Merci bien. Autre question, j'avais une question de Hugo, qui pose une question intéressante. Est-ce que il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de couverture forcément en connexion numérique dans toutes les zones agricoles. Est-ce que ça peut nuire à l'utilisation de votre robot ? Est-ce qu'il a besoin d'être connecté en permanence ? Sinon, comment ça se passe en fait ?
Alors le robot, il n'est pas connecté à l'aide d'Internet ou d'un réseau 4G quelconque qui fonctionne par GPS. Donc normalement, le GPS, ça fonctionne à peu près partout en France. Donc normalement, même dans les zones les plus reculées, on devrait pouvoir faire fonctionner un AgriBot correctement.
Ok, donc il y a effectivement souvent qu'en forêt où on perd le signal, mais normalement, le robot, il ne va pas en forêt, là, c'est ça ?
C'est ça, et puis normalement, même le signal GPS peut se retrouver en forêt. Il y a des technologies comme des téléphones GPS qui existent déjà.
Ok, on avait une dernière question de Marion. Marion, elle est en studio avec nous. Tu veux la reposer en live ?
Oui, pas de problème. Donc, ma question, c'était comment avez-vous prévu de lutter contre la dépendance aux robots ?
Je pense déjà, les robots, on va les diffuser. Ils seraient diffusés sur un ensemble de collectifs. Donc, il y en aurait du coup moins. Du coup, on serait moins. Enfin, il y aura déjà. Un nombre moins important de robots. Et après, pour vraiment être dépendant, vraiment, c'est un plus, mais ça, je pense que ça ne remplacera jamais, si un jour le projet voit, ça ne remplacera jamais. C'est une initiative que l'on peut prendre, mais ça sera pas, en tout cas, on ne sera jamais dépendant vraiment du robot.
Ok, merci. Hein. Donc on l'a vu, un point de vigilance qui était soulevé aussi avec votre extrait de l'atelier paysan. Hein. Les risques, dans le cours, on parlait notamment de prolétarisation. Donc le risque, effectivement, pour des gens de devenir un petit peu dépendants de leurs outils et de perdre des savoir-faire. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter un dernier mot ou si... On se quitte là-dessus.
Alors bah déjà, merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pourrez retrouver cette émission sur Aperitube. Et si notre projet vous a intéressé, on peut que vous inviter à nous suivre sur Mastodon. Donc agribots@mastodon.social. Vous pourrez consulter l'intégralité du site du projet.
Eh bien, merci beaucoup Lou pour cette conclusion. Donc aperi.tube, tu l'as dit, l'onum.fr pour retrouver le point d'entrée vers ce projet ainsi que tous les autres. On va se quitter, écouter un tout petit peu de musique. On se retrouvera dans une dizaine de minutes pour un autre projet autour de l'agriculture, le projet e-agricole avec Solène et Marion qui sont déjà en studio. Et donc, je rappelle, c'était Lou et Hugo pour le projet Agribot qui a été suivi par Pierre Larocca du Labri à l'université de Bordeaux. Voilà, ben on se quitte avec Minatoil. Donc moi j'avais 12 ans et Lou, je crois que tu l'as. tu as quand même eu l'occasion de découvrir même en live, n'est-ce pas?
Exactement.
Allez, c'est parti.
Bye.